Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la Mémoire sur Radio Courtoisie, Anne Colin au micro. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Aranda. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est votre première participation, en tout cas au Mardi de la Mémoire. Et votre premier ouvrage d'ailleurs, vous êtes historien, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bretagne Occidentale, c'est-à-dire à Brest. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage publié aux éditions Passé Composé, en coédition avec le ministère des Armées, qui s'intitule « La marine de la Révolution, l'étrange victoire ». Alors, ce qui est peut-être plus étrange, c'est l'association entre ces deux mots, c'est tout l'objet de votre livre. Que dire de la marine pendant la Révolution? Comment inscrire l'histoire de la marine française dans la Révolution française? Quelle est sa place véritable? Et nos auditeurs vont le découvrir comme je l'ai découvert avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt, et bien qu'elle y tient toute sa place. Et que c'est à tort, parfois par ignorance, issue d'une... d'un subjectivisme des deux côtés, hein, vous nous l'expliquerez, eh bien qu'elle a semblé être le parent pauvre. Alors, ce n'est pas l'acteur principal, hein, n'en faisons pas plus qu'il n'en faut. Mais c'est vraiment un ouvrage très intéressant, très important, j'ai vu que vous aviez eu quelques chroniques assez élogieuses dans les publications récentes et qui s'inscrit très bien dans le 400e anniversaire de la création de la Marine nationale qui s'est ouverte là, en 1826, puisque c'est typique d'Ancien Régime, la création de la Marine nationale, entre le décret et son application, on ne sait pas exactement de quand la dater, en tout cas de 1626. Alors Olivier Aranda, peut-être présentez-nous votre parcours qui vous a amené à publier chez Passé Composé cet ouvrage « La Marine de la Révolution ».
Ben merci beaucoup. Écoutez, c'est très simple. En fait, c'est un ouvrage qui est issu d'abord et avant tout d'une thèse de doctorat que j'ai réalisée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui portait sur la marine de Révolution en général, mais en particulier sur la marine de Brest, en fait, qui est la moins connue. Pourquoi ? Parce que la marine de la Révolution, en fait, on l'associe plutôt aux événements qui ont eu lieu à Toulon. Je pense au siège de Toulon en 1793, je pense à la bataille d'Aboukir en 1798. En fait, ça aurait pu être d'ailleurs un autre sous-titre, hein, c'est une autre marine que j'ai voulu montrer, une autre marine de la Révolution, celle qui se déroule surtout à Brest, même si je parle bien sûr de Toulon et de la Méditerranée, où cette flotte de Brest, en fait, ne fait pas si mauvaise figure que cela, c'est ce que j'ai essayé de montrer, non pas qu'elle est, je n'ai pas trouvé évidemment de victoire qui aurait été passée sous silence, hein, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais pas du tout. Néanmoins, dans sa stratégie et dans sa manière de combattre, en fait, elle tient la dragée haute à plusieurs reprises à la Royal Navy et à ses alliés, parce que la Royal Navy a de nombreux alliés. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est issu d'une thèse de doctorat, un petit peu remaniée et élargie, qui vise à combler ce qui est en partie un vide, parce qu'il y avait quelques ouvrages là-dessus, mais assez peu académiques, et donc aussi à l'occasion des 400 ans de la marine, de réinscrire cette marine de Révolution dans la continuité de la marine depuis ses origines jusqu'à nos jours.
Alors, on peut peut-être rester sur ce point, j'ai évoqué le subjectivisme, et justement de la subjectivité de l'histoire, autour de la question de la marine et de la Révolution, parce que vous expliquez dans votre livre, et pour moi c'est un des apports, non pas que je connaisse par cœur les combats navals de la période, on va dire 1789-1799, mais un peu quand même, c'est qu'en fait il y a eu une lecture qui a associé la marine à la Grande-Bretagne, la marine à la monarchie, et qui a totalement occulté un travail de fond, de continuité technique, stratégique, qui est opéré par les révolutionnaires.
Tout à fait. C'est le cœur de l'ouvrage, en fait, parce que effectivement, nous-mêmes, hein, on associe la révolution plutôt, on associe, pardon, la marine plutôt à l'Ancien Régime, les plus belles pages de gloire, il ne s'agit pas de dire le contraire, de la marine à voile française, c'est sous le pavillon royal, je pense par exemple à la guerre d'indépendance américaine, bien sûr. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que la Révolution se désintéresse de la marine. Et il y a eu toute une écriture de l'histoire qui a voulu voir à tout prix, dans 1789, une rupture absolue, avec ensuite un désintérêt du régime d'assemblée et de l'assemblée pendant... la révolution pour la marine, qui n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout réussi, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de désintérêt. En fait, l'histoire de la marine pendant la révolution, elle s'est écrite surtout pendant la Troisième République, à un moment où, comment dire, la droite monarchiste a voulu y voir une arme, en fait, pour attaquer la Troisième République, en se disant, vous voyez, les défauts de la Troisième République, du parlementarisme de la Troisième République, étaient déjà sous-jacents dans les échecs de la marine vis-à-vis de la révolution. Et donc, donc en fait, il y a toute une tradition historiographique qui naît à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'expression « la royale ». Je parle bien de la Troisième République. Hein. Et donc, en fait, on a voulu plaquer a posteriori une manière d'interpréter qui est, pour moi, largement erronée. En réalité, en fait, cette marine de révolution, elle existe bien. Il y a bien un intérêt des révolutionnaires pour la marine qui n'est pas étonnant. C'est des hommes du XVIIIe siècle. Ils ont connu la guerre d'indépendance américaine. Ils ont connu la grande rivalité franco-britannique du XVIIIe siècle. Les hommes de la révolution ne naissent pas en 1789. Donc, ce n'est pas si étonnant que les révolutionnaires, les conventionnels notamment, se soient intéressés à la marine.
Alors, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que... très souvent, notre mémoire, évidemment, ne peut pas aller très loin et notre connaissance s'arrête à notre mémoire. Et donc, beaucoup de nos... des contresens ou même des erreurs que l'on commet en histoire vient de notre ignorance, de notre méconnaissance. Et donc là, c'est vrai que ce terme de la royale, qui fait le pendant de la Royal Navy, et qui est toujours utilisé au XXIe siècle pour désigner la marine, eh bien, c'est intéressant d'apprendre que, en fait, c'est un terme qui date du XIXe siècle.
Tout à fait. Et en fait, c'est d'autant plus intéressant que, si vous voulez, ce terme a été construit a posteriori, au moment du XIXe siècle, pour essayer de démontrer, c'est ce que j'explique dans le livre, qu'il y aurait une forme d'aporie, de contradiction dans les termes entre révolution et marine. Voilà. Ça repose sur des idées très classiques, hein, qu'on retrouve déjà chez Platon, qui est que la marine, ce serait l'antidote de la démocratie. Pourquoi ? La marine, effectivement, tous les marins le savent, c'est pas vraiment le lieu, théoriquement en tout cas, de la délibération. Il y a un capitaine, il faut obéir, il y a une hiérarchie, c'est le capitaine seul maître à bord après Dieu. Donc comment on fait pour essayer de mettre ensemble, de faire fonctionner un système aussi vertical avec une aspiration à l'horizontalité qui est celle de la révolution ? Eh bien, toute l'historiographie jusque-là, c'est-à-dire les historiens, ont dit c'est bien simple, ça ne marche pas. Moi, j'ai essayé de nuancer, non pas de dire que tout est merveilleux. Hein. Il y a plein de problèmes, évidemment, mais c'est justement ça qui est intéressant pour l'historien. C'est comment on essaye très laborieusement de faire en sorte de trouver de nouveaux officiers, de faire une discipline qui soit moins contraignante, mais qui soit quand même discipline, sans tomber dans l'anarchie, ce qui est la grande crainte des acteurs de la période. Et c'est ça qui est très difficile et qui, en même temps, est très intéressant. Parce qu'on mélange deux mondes qui, théoriquement, on a pu dire, mais c'est largement une reconstruction, qu'ils n'avaient rien à voir. En fait, c'est plus compliqué.
Et en plus, on voit bien qu'il y a, au sein de la Marine nationale, vous venez de nous le montrer, cette verticalité qui est nécessaire pour faire fonctionner et qui va souvent laisser entendre que comme ça ne peut pas fonctionner avec les idées de la Révolution, l'intégralité du commandement de la Marine de l'Ancien Régime, ne l'appelons pas la Royale parce qu'à cette époque on ne l'appelait pas la Royale.
La Marine du Roi.
La Marine du Roi, voilà, que la Marine, l'intégralité de son commandement va démissionner et ou va émigrer, en tout cas va cesser, vous montrer que c'est pas le cas, et non seulement vous montrer que c'est pas le cas, mais le deuxième volet, vous montrer que les nouveaux, ceux qui vont remplacer les postes vacants, ne vont pas être si nuls que ça.
Exactement, alors ça c'est un premier sujet, effectivement, c'est le sujet de l'émigration des officiers, voilà, qui a fait couler beaucoup d'encre, hein. parce que, parfois même dans un registre un peu curieux, à la limite du complotisme, certains ont pu dire que finalement, c'était la Grande-Bretagne qui avait favorisé l'émigration pour essayer d'en fait de détruire ce corps des officiers d'Ancien Régime si brillant. Il l'est, hein, c'est un corps remarquable. On peut regretter, on a le droit de le penser que finalement, ils aient été poussés à l'émigration. Néanmoins, ils n'émigrent pas tous, y compris des nobles. Hein, parce qu'en fait, j'ai écrit un article là-dessus, hein, qui n'est pas forcément dans l'ouvrage, mais qui est très intéressant dans la revue d'histoire maritime. Enfin, c'est un sujet, je ne dis pas que mon article est très intéressant. Le sujet est très intéressant sur comment est-ce qu'on émigre, en fait. Est-ce que c'est que les nobles? En fait, on se rend compte qu'il y a des nobles qui restent, et il y a, à l'inverse, des officiers qui émigrent et qui ne sont pas nobles. Donc en fait, c'est aussi social et politique, la ligne de fracture, en fait. Elle n'est pas seulement, sur la question de la qualité nobiliaire. Et donc, ces émigrés, que font-ils? Ben, ils estiment que, voilà, ils n'ont pas voulu servir le roi dans ces conditions-là. Donc ils se retirent, certains à l'étranger, certains officiers émigrent à l'étranger, certains simplement se retirent sur leur terre, c'est un phénomène un peu moins connu. D'autres restent et essayent du coup de faire vivre cette marine où parfois il est difficile de se faire obéir. Il y a des, je décris hein, précisément au moment de l'entrée en République des scènes assez difficiles de comment est-ce qu'on passe à une discipline largement consentie et qui fonctionne. Parce qu'évidemment, une discipline consentie, c'est pas très dur, mais une discipline consentie qui soit, qui permette une discipline militaire suffisante, c'est beaucoup plus compliqué. Donc comment, par exemple, faire accepter aux marins bah, qu'ils doivent continuer à s'entraîner quand bien même on est en République, quand bien même il y a la Révolution, c'est ça qui est très compliqué. Parce que, je finis là-dessus, il y a évidemment aussi, je le montre hein, dans l'ouvrage, il y a aussi les marins, certains matelots aussi, s'appuient sur la Révolution pour, et c'est normal et humain, essayer d'en faire le moins possible, essayer de renverser ces cadres. Alors comment on construit une marine où on continue d'obéir, mais en même temps d'une manière différente? Alors justement, les républicains essayent de dire « Mais attendez, les officiers, les aristocrates sont partis. Maintenant, vous pouvez obéir, puisque c'est plus à des individus qui seraient par essence supérieurs à vous que vous obéissez, mais à des gens qui ont été élus, etc. etc. »
Et l'autre volet qui est celui des places vacantes qui sont donc remplacées par des officiers nouveaux, hein, oui. Là aussi vous montrez que rien dans vos recherches ne pourrait vous amener à dire qu'ils sont médiocres et que l'apparente médiocrité, là aussi, des faits maritimes ou des faits navals de cette période ne peut leur être attribué.
Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, les anciens officiers qui sont ce qu'on appelle les officiers des gardes de la marine, qui sont interdits aux roturiers, il fallait être aristocrate pour être garde de la marine sous l'Ancien Régime.
Alors, est-ce que je peux faire une toute petite Bien parenthèse, sûr. Cher, que je n'écorche pas de votre nom, Olivier Aranda. J'aime pas beaucoup, et à Radio Courtoisie, dans mes émissions, j'ai souvent alerté mes invités, j'aime pas beaucoup qu'on fasse une confusion entre aristocrate et noble. Mm-hmm. Parce que, bien sûr, quand on est officier et qu'on commande, il se trouve qu'on est à la fois noble et aristocrate, mais l'aristocratie, c'est le gouvernement par les meilleurs. Mm-hmm. Et on a trop associé la noblesse à
je
ça, ce qui fait qu'on croit toujours que revenir, par exemple, à une monarchie, ce serait ramener la noblesse. Non, enfin, l'aristocratie, c'est pas forcément un noble. Mmh. Il se trouve que souvent, ça a été confondu. Mais
oui, je comprends ce que vous dire. Voilà. Donc, en fait, les nobles, du coup, les nobles qui, le corps des gardes de la marine, donc, était exclusivement des nobles, très bien formés, corps d'élite, avec ses déficiences, comme n'importe quel groupe humain, évidemment, mais néanmoins très bien formés. La plupart, donc, émigrent. Ils s'en vont, soit sur leur terre, soit à l'étranger. Ils sont remplacés donc par des hommes qui ne sont pas des gardes de la marine. Certains sont quand même nobles parce que tous les nobles n'étaient pas gardes, etc. Bref. Et on a beaucoup dit que ce corps donc était inférieur parce que, en gros, ça aurait été les ratés, ceux qui n'avaient pas pris, ou alors des jaloux qui auraient pris la place des nobles, qui auraient vu une manière de finalement de monter en grade très facilement, par la flatterie politique, par exemple, des hommes du moment. C'est pas totalement faux, ça a pu exister. Néanmoins, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'au-delà de ces querelles d'individus, c'est qu'effectivement, je n'ai trouvé aucun combat, aucun affrontement majeur où l'échec puisse être attribué au fait que c'est un officier nouveau plutôt qu'un ancien garde de la marine qui est commandé. Pour moi, le vrai élément majeur, c'est la stratégie. Ce qui fait l'échec ou non, c'est la stratégie beaucoup plus que des questions de personnes. Je ne crois pas que si l'émigration n'avait pas eu lieu, le résultat des guerres révolutionnaires était très différent. C'est ça mon propos. Donc finalement, je crois qu'il faut finalement prendre peut-être plus du recul et de la hauteur et dépasser ces querelles d'individus.
Mais c'est ça qui est formidable avec la nouvelle génération d'historiens que vous incarnez, Olivier Aranda. C'est qu'on sent, enfin, je vous le dis très sincèrement parce que ça fait presque 35 ans que je reçois des historiens à ce micro. Et je vois vraiment arriver une nouvelle génération d'éminents historiens. Vous êtes maître de conférences, vous êtes docteur en histoire. Et vous avez cette capacité de recul qui vous fait aborder cette période de la Révolution française de façon beaucoup plus apaisée que la génération précédente. Et ça vous permet du coup peut-être d'y voir un peu plus clair, en tout cas de davantage incarner ce que disait Fievé, à savoir que l'histoire n'est ni noire ni blanche, mais qu'elle est essentiellement grise. J'ai beaucoup apprécié, et je pense que c'est ce qui a été beaucoup remarqué dans votre ouvrage. Voilà, c'est ça, c'est cette capacité de dire, bon, attendez, voilà, on s'en fiche, la Révolution française, de toute façon, ça existait. On n'en est pas à chercher idéologiquement où se situer là-dedans, mais il faut maintenant étudier comment ça s'est passé et comment ça s'est passé pour la marine.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'ouvre l'ouvrage sur un rappel, finalement, des continuités. Parce que la marine, voilà, c'est aussi un espace du temps long. Un port, ça ne se construit pas comme ça, ni aujourd'hui, ni hier.
Un navire, peut-être
pas encore moins, mais quasiment. Et donc, en fait, les éléments de continuité sont importants. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, tous les historiens jusque-là ont voulu faire de la marine de la Révolution une rupture. La plupart pour dire que c'est une rupture vers le négatif, quelques-uns très rares, une rupture vers le positif. En fait, c'est peut-être ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des changements, bien sûr, mais les éléments de continuité sont aussi majeurs. Quels sont-ils? Continuité des données géographiques. Il y a toujours, par exemple, ce problème des deux façades pour la France, façade atlantique, façade méditerranéenne. Il y a le problème qu'on n'a pas de port à Cherbourg. Le port de Cherbourg est en construction, donc il n'y a pas de port majeur sur la Manche pour la France. C'est un problème qui a concerné l'Ancien Régime, qui concerne la Révolution française et qui concerne par la suite l'Empire. Donc là aussi, l'affrontement avec la Royal Navy, c'est une donnée majeure. Et là, on est donc dans une continuité qui va bien, qui dépasse les querelles. Mais vous voyez ce que je veux dire? Paradoxalement, c'est plutôt une pierre dans le. Ce que je dis, c'est plutôt une pierre dans le jardin d'une lecture strictement et étroitement contre-révolutionnaire de l'histoire de la marine. Puisqu'en fait, on a voulu. En fait, l'historiographie contre-révolutionnaire a pris au mot les révolutionnaires en disant: ah, vous avez voulu changer la marine? Ben, on va voir. Et ben, en fait, non, il ne fallait pas les prendre au mot. Ils ont dit qu'ils voulaient changer tout de la cave au grenier. Et en fait, ils ont changé certaines choses, mais pas tant de choses que ça.
Effectivement, vous ouvrez votre ouvrage sur une réunion, racontez-le à nos auditeurs parce que c'est quand même assez incroyable. En plus, ça se passe au château de Meudon, au lieu de l'Ancien Régime, enfin, résidence du Grand Dauphin, résidence ensuite des tantes de Louis XVI, un endroit magnifique qui respire l'Ancien Régime. Hein, et là, une réunion scientifico-politique, hein, on peut dire.
Absolument. Oui, alors je vous remercie d'avoir relevé cet épisode, je suis très content, effectivement, j'ai voulu ouvrir l'ouvrage, son accroche, comme on dit, sur loin de la mer, finalement, loin de la mer, on est à Meudon, on est loin des ports, des arsenaux. Qu'est-ce qui se passe en fait, on est à l'automne 1794, et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que des envoyés de la Convention, du Comité de Salut Public, et des scientifiques, des chercheurs entre guillemets, en pyrotechnie, en artillerie, sont rassemblés à Meudon. Pourquoi? Pour faire des expériences d'artillerie navale. Et on se rend compte que, pourquoi? Parce que la marine de la Révolution essaie de mettre au point des obus explosifs, tels qu'ils seront mis au point de manière vraiment, permanente 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Et pourquoi ouvrir là-dessus? Parce que cet épisode, à lui tout seul, prend le contre-pied de tout ce qu'on avait pu dire jusque-là, à savoir que la Révolution ne s'intéressait pas à la marine. Bien sûr que si, puisque Carnot est là. Carnot est là, les membres du Comité de Salut Public, les hommes qui gouvernent la France, c'est pas du tout des rigolos. Et ils sont là, pourquoi? Pour s'intéresser à des obus de marine, donc c'est bien qu'ils y portent intérêt. Et en plus, ces obus de marine, ils sont liés à une volonté de mener une guerre offensive stratégiquement de destruction de la force organisée de l'adversaire sur mer. Or, ça, ça peut paraître un détail, mais pour les navalo-navalistes, dont je fais quand même un peu partie, c'est fondamental, parce qu'il y a toute une tradition historiographique, notamment anglo-saxonne, qui a affirmé que les Français étaient incapables, presque par essence, de penser l'offensive sur mer. Or, évidemment, absolument pas, c'était ce refus français de l'offensive, qui d'ailleurs, est vrai pour l'Ancien Régime, comme pour la Révolution, comme pour l'Empire, n'est pas lié à une incapacité française, mais plutôt à des données stratégiques qui, elles, ne changent pas. Et donc, je finis là-dessus, la Révolution, ce sont des hommes et un régime qui a voulu reprendre l'Empire des mers de manière extrêmement délibérée à travers le progrès technique. Et c'est donc pour ça que j'ouvre l'ouvrage là-dessus, parce que cette simple scène va à l'encontre de tout ce que vous avez pu lire jusque-là sur la marine de la Révolution.
Oui, puis on voit, je trouve que on aimerait qu'un peintre...
C'est le cas, c'est le cas.
Un petit dessin.
Exactement, puisqu'il y a une aquarelle de Comté, qu'on connaît, Comté qui est le fondateur de l'entreprise Comté actuellement de mines de crayons. Bon, il est mort depuis longtemps, mais qui a laissé une aquarelle, non pas de la scène, ce qui aurait été super, de la scène avec vraiment les politiques, et puis une espèce d'événement politico-militaire, un peu presque mondain, j'aurais été curieux de prêter l'oreille à cette expérience. On voit juste la cible, mais qui est quand même, ça reste un document fascinant qui est dans l'ouvrage.
Oui, ça a l'air immense.
Oui, c'est un bordage de navire, c'est un morceau de 74 canons de navires de ligne qui a été construit en forêt de Meudon. Pourquoi ? Pour servir de cible. Les plus marins parmi vos auditeurs remarqueront quand même, et c'est vrai, que cette expérience a donc des limites, parce que ce qu'on teste à terre, ça ne fonctionne pas toujours forcément en mer. Donc la première limite quand même de cette expérience, voilà. Mm-hmm. Je vous l'ai dit, tout n'était pas parfait, mais néanmoins, parfait ou non, on ne peut pas dire que ces hommes ne se sont pas intéressés à la marine.
Oui, bien sûr. Alors, je rappelle, chers auditeurs de Radio Courtoisie, qu'aujourd'hui, au Mardi de la Mémoire, je reçois Olivier Aranda, docteur en histoire, maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale, je ne me trompe pas, qui est donc à Brest, et qui vient de publier aux éditions Passé Composé, en coédition avec le ministère des Armées, un ouvrage, La Marine de la Révolution, l'étrange victoire, qui s'inscrit évidemment dans le cadre du 400e anniversaire de la création de la marine, qui est commémorée cette année avec une très belle exposition actuellement au musée de la marine. J'ai reçu la semaine dernière le commissaire de cette exposition, Bertrand de Sainte-Marie, et qui consacre l'union entre les peintres et la marine. On connaît évidemment cette expression « les peintres de marine », mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et en première de couverture, d'ailleurs, Olivier Aranda, vous nous montrez une très très belle union justement entre l'art et la marine, avec un combat qui se passe en 1795. Vous pouvez peut-être nous décrire et ça va nous donner l'occasion peut-être de quitter un peu la théorie et de rentrer dans une chronologie des batailles pendant la période révolutionnaire.
Eh bien, écoutez, en fait, c'était un affrontement qui est en couverture. Mon éditeur s'est jeté un petit peu sur l'occasion, parce que c'est vrai que c'était un très beau tableau peint par plus ou moins un Français en exil en Angleterre. Bon, bref, donc une espèce de parcours un peu étonnant, qui décrit donc une bataille assez connue qu'on appelle la bataille de Pré-Réal. Pourquoi de Pré-Réal ? C'est un des mois du calendrier révolutionnaire, on connaît Germinal par exemple. Eh bien, cette bataille qui a eu lieu le 1er juin 1794, elle a un nom assez peu reconnaissable, parce qu'elle a lieu au large. La plupart des batailles, en fait, ont lieu près d'un cap ou d'une terre quelconque qui permette de donner un nom. C'est pas le cas de cette bataille. Pourquoi ? Elle a lieu au large dans l'Atlantique parce qu'elle a pour objet la conservation d'un convoi de subsistance, d'un convoi de farine, en fait. Parce qu'à cette époque-là, la marine française et la France en général, est touchée par la disette. Les gens meurent pas de faim, mais ça va quand même pas très fort, comme avant la Révolution d'ailleurs. Et donc, du coup, protéger les approvisionnements, les lignes de communication, est absolument fondamental. Sauf que la marine française est face à un problème. Comme je vous l'ai dit, elle ne recherche pas le combat. Elle ne recherche pas le combat parce qu'elle estime, à raison, être dans une infériorité numérique. Donc, comment chercher... Quand on refuse le combat, c'est toujours... la plupart des théoriciens navals vous diraient, et c'est pas non plus complètement faux, qu'on prend toujours le risque de se voir imposer à son détriment. C'est un petit peu ce qui s'est passé là. La marine française, en fait, la flotte de Brest, est interceptée par la flotte britannique qui, elle-même, cherchait le convoi, un convoi de 115 voiles considérables, hein, chargés de farine. Et cet affrontement est resté très célèbre parce qu'il est très violent, extrêmement dur. Je rentre dans certains détails. Un des navires français coule, le Vengeur du Peuple. Épisode célèbre, hein, il y a, dans les histoires du 19e siècle, vous savez, les grandes histoires à la Lavis sont racontées. Cet épisode du Vengeur du Peuple, il y a un monument au navire, hein, le Vengeur du Peuple au Panthéon, encore aujourd'hui. Et donc, c'est une défaite pour la flotte française. 6 vaisseaux sont perdus, mais ça permet au convoi de passer. Le convoi parvient bel et bien à bon port à Brest, puis ensuite, et donc peut donner sa nourriture à la France entière. À la Convention, bien sûr, on passe un peu, on jette un voile pudique sur les pertes, on insiste plutôt sur le succès du convoi. Et par contre, dans un second temps, on retourne le stigmate, si j'ose dire, en insistant sur le sacrifice héroïque du Vengeur du Peuple, qui est vrai, hein. Non pas les épisodes légendaires qu'on aurait chanté la Marseillaise en refusant. Bon, ça, sans doute, c'est faux, mais ce qui est vrai, en tout cas, et c'est pas seulement sur le Vengeur du Peuple, j'ai aussi écrit un article là-dessus, d'ailleurs, c'est qu'effectivement, il y a une forme de ténacité au combat. Est-ce qu'elle est liée à la politique ? Difficile à dire, je pense que oui, c'est-à-dire une volonté de défendre la République, comme à terre. Et donc, cette marine de la Révolution, vous voyez, c'est un exemple extrêmement frappant, ben, fait preuve d'une ténacité, d'une résilience dans sa défense à la fois de la subsistance de la nation et aussi dans son combat, sans néanmoins remporter de grandes victoires. Parce que vous voyez, et je finis là-dessus, c'est la stratégie que mène la marine française, c'est-à-dire ne pas chercher l'affrontement, mais plutôt protéger ses lignes de communication, attaquer celle de l'adversaire, tenter de débarquer. Vous voyez, ce sont des méthodes militaires qui ne sont pas très spectaculaires. Et c'est pour ça qu'on a... C'est une des raisons pour lesquelles, mémoriellement, cette marine a mauvaise presse. Parce qu'évidemment, gagner une bataille, ça marque les esprits. S'emparer d'un convoi ennemi, c'est peut-être pas beaucoup moins important, et pour autant, on s'en souvient beaucoup moins.
Alors, sur ce tableau, on voit quelque chose qui a attiré mon attention. On voit des drapeaux, évidemment, qui flottent au-dessus de voiles très abîmées, dont on sent que le combat a été rude. Et parmi ces drapeaux, il y en a un qui est blanc, avec un petit encart sur un quart, hein, de son drapeau, qui est bleu-blanc-rouge. Et vous m'avez appris, Olivier Aranda, que le drapeau maritime de la flotte de la marine française avait très tôt à arborer ce drapeau bleu-blanc-rouge à l'intérieur du drapeau blanc.
Absolument. Donc en fait, donc en mer, on parle de pavillon, hein, et le pavillon français est à l'origine de la formalisation du drapeau français tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pourquoi ? C'est pas étonnant. Parce qu'en mer, il n'y a pas de place pour l'à peu près. À terre, vous voyez, souvent, l'important, c'est les couleurs, c'est-à-dire que la présence des couleurs. Leur agencement compte assez peu dans l'armée française. On mélange le bleu, le blanc, le rouge. Vos auditeurs se rappellent certainement des drapeaux de l'Empire, où finalement, le bleu-blanc-rouge n'est pas un bleu-blanc-rouge comme aujourd'hui, c'est plutôt un blanc central avec le bleu et le rouge sur les côtés. Eh bien, donc, finalement, à terre, peu importe l'agencement. En mer, on est plus rigoureux, il y a moins de place à l'erreur, et donc, il faut être bien clair sur ce qui constitue le pavillon. C'est pour ça que donc ça a fait l'objet de deux lois. En 1790, on introduit à l'intérieur de l'ancien pavillon royal, qui était le pavillon blanc immaculé, on introduit un quart tricolore, rouge, blanc, bleu. Et c'est le 14 février, je crois, 1794, que sont formalisées par la marine, pour la première fois, les couleurs nationales telles qu'on les a aujourd'hui, bleu, blanc, rouge, avec une description bien précise, voilà, que ce soit par tiers, etc. Donc en fait, il y a une exposition qui a eu lieu à Madrid, qui a fermé il y a un mois, qui s'appelle la Bandiera Quebino del Mar, donc le drapeau venu de la mer. Ben pour nous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les formalisations des couleurs nationales telles que nous les connaissons aujourd'hui, elles sont venues de la mer. Et c'est donc, c'est quand même pas rien comme contribution. Vous voyez que cette marine de la Révolution, ben, elle a quand même fait des choses, même mémoriellement. Et en même temps, ce drapeau, ce pavillon, pardon, dont vous soulevez l'existence sur la couverture, il n'est pas rien, parce qu'on voit aussi cette transition en douceur, finalement.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu de grands débats, mémoriellement aussi, c'est-à-dire au XIXe siècle, on a beaucoup discuté, certains ont vu dans ce quart tricolore une humiliation, que ça n'avait rien à faire là, ou alors peut-être on peut y voir plutôt une transition en douceur, on peut penser, vous connaissez le fameux tableau dont j'ai oublié le peintre, on voit le drapeau blanc se transformer, parce qu'il est touché par le sang, et puis il se déchire, et donc le ciel apparaît derrière, et donc en fait il devient le drapeau tricolore. Ben, c'est un petit peu ça ce qui s'est passé. Aujourd'hui à l'école navale à Lanvéoc, en face de Brest, les quatre pavillons de la Marine nationale, c'est-à-dire pavillon blanc de l'Ancien Régime, pavillon à quart tricolore, pavillon tricolore, et je crois aussi le pavillon frappé de la Croix de Lorraine de la Seconde Guerre mondiale, les quatre sont présents dans les espaces de réception de l'école navale. Donc il y a une forme de mémoire, vous voyez, de ce pavillon qui marque bien cette transition, cette irruption de la Révolution au sein de la Marine.
Alors, Olivia Randa, nous allons nous interrompre quelques petites secondes pour écouter un message de Radio Courtoisie et nous reprenons notre conversation.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr. Et podcast.rc.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez les Mardis de la mémoire. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Olivia Randa, qui publie aux éditions Passé Composé, en coédition avec le ministère des Armées, La Marine de la Révolution, l'étrange victoire. Alors, rentrons tout de même dans les batailles et les faits que la Marine nationale a vécu globalement de 1789 à 1799. On sort d'une période compliquée qui a vu des combats au-delà des mers, hein, dans les Antilles, dans ce premier empire colonial perdu à l'issue de la guerre de 7 ans, et avec la grande bataille de Yorktown, puis ensuite la bataille où De Grasse a été capturé. Mmh. Enfin, bon, la marine a vécu quand même des combats difficiles et des moments difficiles, avec une guerre qui s'est prolongée dans les Antilles. Où est-ce que l'on en est quand éclate la guerre en 1789?
Alors en fait, la révolution commence en 1789, la guerre extérieure un peu plus tard, hein, en 1792, puis en 1793 pour les puissances navales, puisque finalement c'est le 1er février 1793 que la France républicaine déclare la guerre à la Grande-Bretagne, puis ensuite aux Provinces-Unies, et donc c'est là que vraiment la guerre navale prend une toute autre ampleur. Et cet affrontement, du coup, vous avez parlé de bataille. Ben justement, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, les batailles passent un petit peu au second plan. Pourquoi ? Parce que le plan des républicains, du comité de salut public, du conseil exécutif et du ministère de la Marine, c'est moins de chercher la bataille que d'essayer de sécuriser le territoire contre deux menaces. D'abord, effectivement, ben, la menace vendéenne, tout simplement. Parce qu'évidemment, cette histoire de la contre-révolution, elle apparaît en très bonne place dans mon ouvrage, parce que peu d'ouvrages jusque-là, c'est un peu étonnant quand tu réfléchis, avaient fait le lien entre le phénomène fondamental qu'est les contre-révolutions et les questions maritimes. Or, la Vendée, la Bretagne pour ce qui est de la chouannerie, sont des espaces qui sont au bord de mer, qui sont des espaces sur lesquels s'appuie la marine. Et donc, le passage de ces espaces à la contre-révolution pose un redoutable problème à la marine française.
Oui, vous avez raison, on ne l'évoque qu'avec un nom qui est Quiberon, l'échec, mais c'est tout. Or, moi, j'ai été passionnée par toute cette histoire d'entrer dans la Loire, effectivement, ces vaisseaux qui sont là pour veiller au grain. Hein.
Exactement. Exactement, puisque la première mission qui est confié, puisqu'en fait l'insurrection vendéenne éclate en mars 1793, seulement un mois après l'entrée en guerre contre la Grande-Bretagne. Donc évidemment un timing désastreux, et donc une situation qui met en danger la République, qui lutte pour sa survie. Et donc le comité de salut public va très vite arbitrer dans le sens, donc il va abandonner les Antilles, dans un premier temps, on y reviendra peut-être, pour s'assurer d'un seul objectif, isoler la Vendée. Voilà, isoler la Vendée, faire le blocus de la Vendée. Et cette mission est confiée à la flotte de Brest, dont on entend peu parler, y compris dans les cartes assez canoniques, vous voyez, de l'insurrection vendéenne. On voit toutes ces, voilà, la fameuse virée de Galerne quand les Vendéens vont jusqu'en Normandie. Tout ça est très connu. Ce qu'on ne dit pas, peut-être un tropisme terrien français trop prononcé, c'est que la flotte de Brest, elle est présente, et elle est présente où ? À Quiberon, déjà, entre Quiberon et Belle-Île, et elle couvre la Vendée, c'est-à-dire qu'elle permet d'empêcher toute jonction qui fait très peur évidemment au pouvoir révolutionnaire entre Britanniques ou autres coalisés. Et les Vendéens qui portent, ce qui fait évidemment, les Vendéens déjà qui posent un problème quand ils ne sont pas soutenus. Alors en plus, si, imaginez s'ils avaient reçu des livraisons importantes de poudre, d'artillerie, que sais-je, peut-être, bah, peut-être que tout simplement ils l'auraient emporté. Donc c'est ce péril mortel que doit prévenir la flotte de Brest. Et elle y parvient. C'est donc un succès un petit peu ambigu, puisqu'évidemment un succès remporté contre d'autres Français, etc. Mais elle y parvient bien, ce qui signifie donc que cette flotte de Brest, ben, et cette marine révolutionnaire en général, elle n'a pas été complètement inutile, et pas complètement inefficace non plus. Donc voilà un premier point. C'est dans un second temps que la marine française se retourne vers les Antilles, notamment à l'occasion, excusez-moi, d'un événement majeur, qui est l'abolition de l'esclavage. Donc on est nettement plus tard, hein. On est en 1794. Le 4 février 1794, première abolition de l'esclavage, poussée par toutes sortes de considérations humanistes en partie, mais aussi bien sûr militaires et stratégiques. À partir du moment où l'esclavage est aboli, la France, qui est jusque-là surclassée dans les Antilles, parce qu'elle est seule en fait, elle est seule contre des pouvoirs, des puissances qui sont elles toutes opposées, non seulement l'Angleterre, mais n'oubliez pas que l'Espagne est en guerre contre la France, hein, jusqu'en 1795. Donc l'Espagne, les Néerlandais, donc la France est bien seule, mais elle a un atout dans sa manche, la France républicaine, c'est cette abolition de l'esclavage, et que des navires vont pas tarder à répandre, finalement. On répand la nouvelle, on arme les anciens esclaves, et c'est comme ça que la France républicaine conserve la Guadeloupe. La Martinique est tombée aux mains des Anglais, avec la complicité des planteurs qui, justement, ils craignaient l'abolition de l'esclavage et donc la ruine de leurs plantations. On craint aussi beaucoup un scénario à la Saint-Domingue, hein, c'est-à-dire une révolte généralisée avec le massacre des planteurs, des Blancs, dans toute l'île. Et donc, cette abolition de l'esclavage, c'est un outil militaire qui permet notamment la conservation de la Guadeloupe. La Guadeloupe est, en fait, les Anglais avaient déjà débarqué, mais en abolissant l'esclavage et en armant les anciens esclaves, tout ça se fait à travers la marine, parce qu'il faut bien envoyer des navires pour communiquer, etc. Eh bien, la Guadeloupe est reprise. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, là, on fait vraiment de l'histoire atlantique, vous voyez la connexion entre ces théâtres. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre tête, et c'est légitime, la Vendée, la Guadeloupe, tout ça, c'est très loin, c'est des histoires séparées. Eh bien non, en fait, c'est aussi l'intérêt de l'histoire maritime, de ce qu'on appelle l'histoire atlantique, c'est de connecter ces théâtres. D'ailleurs, certains officiers de marine qui étaient au blocus de la Vendée se retrouvent 6 mois plus tard en Guadeloupe, puis ensuite ils reviennent, ils partent parfois en Inde, etc. etc. Donc vous voyez, comme les espaces maritimes, comme ils sont continus, ils connectent aussi ces histoires, au sens de l'histoire comme matière scientifique, qu'on ne met pas forcément en lien.
Oui, bien sûr. Et alors, quel est votre avis, Olivier Aranda, sur l'échec du débarquement de Quiberon, considéré comme un échec du côté vendéen, qui est en plus amplifié par une grande impression de trahison de la part des frères de Louis XVI. Quelle est véritablement la stratégie anglaise? Est-ce qu'en fait ils n'ont pas débarqué parce que ils se sont bien rendus compte du fait de tous ces bateaux que ce serait un échec, ou bien de toute façon ils n'avaient pas du tout l'intention de débarquer?
En fait, c'est un événement essentiel, hein, de Quiberon. Donc on est au printemps 1795. Qu'est-ce que c'est cette expédition? C'est une expédition théoriquement française, puisque ce sont exclusivement des émigrés, des royalistes qui débarquent, avec le soutien logistique de la Royal Navy. Alors, première remarque, déjà, il y a un acteur qui n'est jamais convoqué, dont moi je parle par contre abondamment, c'est la marine française, la marine républicaine. Parce que, en fait, par exemple, il y a un article assez fascinant qu'on peut trouver sur Internet qui s'appelle « La marine à Quiberon ». Et on se dit, la marine à Quiberon, ça va parler de la marine républicaine, puis ça va parler aussi de la marine royale, c'est-à-dire les émigrés qui débarquent. Eh bien non, ça parle que des émigrés, cet article. Or, en fait, il y a deux marines, évidemment. Et la majeure, c'est quand même la marine française, parce que la marine républicaine, puisque la marine, les marins du roi qui débarquent à Quiberon, toujours fidèles au roi et à la contre-révolution, ils n'ont pas de navire. Donc, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ce débarquement donc est planifié par la Grande-Bretagne. On espère l'associer à la chouannerie qui est endémique dans le Morbihan, donc du coup à Quiberon, pour essayer de renverser la révolution. Est-ce qu'il y avait des arrière-pensées du type « au pire, si ça échoue, c'est seulement des Français qui s'entretuent » Peut-être. Les derniers travaux ont montré que, a priori, en tout cas, ça, si ça existait, c'était seulement une arrière-pensée. C'est-à-dire que les Britanniques espéraient vraiment le succès. Et quand on étudie ce que je fais, la correspondance des autorités républicaines, on se rend compte qu'ils ne sont vraiment pas sereins. Évidemment, il y a une reconstitution mémorielle ensuite. On a dit c'est Hoche hein, qui défend et qui défait ces émigrés. Donc c'est une victoire des armées républicaines. Il y a une reconstruction après mémorielle en disant que c'était évident. En fait, non. Hein. Les républicains ont très peur. Il y a même un moment où on voit le moment où il va falloir défendre Brest. Il va falloir défendre Brest et la flotte. Les prétendants, c'est-à-dire non, c'est pas le comte d'Artois encore, c'est encore comment il s'appelle, le comte de Provence, le futur Louis XVIII, avait même annoncé que si Brest tombait, il fallait absolument que la flotte passe sous pavillon royal et non pas sous pavillon britannique pour bien montrer que les Anglais ne venaient pas en tant qu'envahisseurs, mais bien pour rétablir la monarchie. Donc c'est une affaire qui a pris de très grandes conséquences. Au Parlement, après l'échec au Parlement britannique, on en parle avec beaucoup de cynisme. Pitt, le Premier ministre britannique, dit « mais le sang anglais n'a pas coulé ». Donc c'est un échec, mais peu importe. Mais le leader de l'opposition, Fox, lui répond le sang anglais n'a pas coulé, mais l'honneur anglais, lui, a beaucoup coulé, a beaucoup perdu. L'honneur anglais y a beaucoup perdu parce qu'en fait, bah, évidemment, ces hommes ont été perdus pour la contre-révolution. Beaucoup seront exécutés par les troupes de Hoche. Et donc... d'un point de vue maritime, ce qui moi m'intéresse, donc la marine française était là quand même. Hein. La marine française, par le plus grand des hasards, enfin pas par le plus grand des hasards, mais par une espèce de jeu de recherche de convois, d'affrontements liés aux communications, se retrouve sur le chemin de cette expédition. Et donc en fait, c'est une scène assez incroyable. Hein. La flotte française de Brest, quasiment dans son ensemble, se retrouve sur le chemin de l'expédition de Quiberon. De manière très intéressante, on crie à la trahison du côté royaliste. On dit, mais c'est pas possible, ils ont été informés. Comment ça se fait qu'ils soient là sur le chemin? En fait, non. Mais la flotte de la République est passée très près de faire dérailler ce débarquement. Imaginez, j'exagère évidemment, hein, mais imaginez que le D-Day, le jour du débarquement du 6 juin 44, 15 cuirassés allemands seraient arrivés. Bon, ça aurait jeté un froid. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a rien de pire pour un débarquement que de se voir la maîtrise de la mer contestée. Donc cette marine républicaine, elle n'est pas si absente. Alors je m'empresse de le préciser quand même, elle est battue. Hein. La marine française est battue par le Royal Navy qui est en grande supériorité numérique de toute façon. Elle doit se réfugier à l'Orient. Mais en se sacrifiant, entre guillemets, elle a aussi fait gagner du temps à Hoche et aux armées républicaines pour s'opposer au débarquement. Donc, vous voyez où je veux en venir, toujours la même chose, c'est là que je veux en venir à chaque fois, elle existe, cette marine de révolution. Ce qu'elle fait n'est pas parfait, loin de là, mais elle existe.
Et alors, les officiers émigrés ou exilés qui débarquent dans une marine qui n'est plus la marine française officiellement, ce sont des bateaux anglais ou des bateaux qui leur appartenaient? Comment...
En fait, il y a toutes sortes de scénarios. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste. Ce que je sais, c'est que par exemple, c'est une histoire qui est un peu racontée par Victor Hugo dans 93, mais de manière très très fantastique. Hein. Il ne faut pas trop lui accorder confiance, ça reste quand même très littéraire. Alors, il s'est passé deux choses. Les émigrés, la plupart en fait des officiers de marine émigrés forment des bataillons de l'armée de terre en fait. Et ils vont combattre la République, notamment en Allemagne, aux côtés des troupes britanniques, où ils se couvrent peut-être pas de gloire, mais en tout cas, l'armée de terre constate qu'ils sont très sérieux. Qu'ils font beaucoup d'efforts, ces marins, pour apprendre un métier qui n'est pas le leur, c'est-à-dire le combattre à terre. Il y a une thèse en cours, hein, d'ailleurs, j'ai oublié son auteur, je vous l'enverrai peut-être. Il y a une thèse en cours hein, sur ce corps des officiers en général et sur cette émigration militaire, ce qu'on appelle l'émigration des... Parce que de la même manière que moi j'essaye de déconstruire les clichés sur la marine de la Révolution qui aurait été catastrophique, niveleuse, quasiment pré-soviétique, c'est faux. Il y a aussi des clichés sur la contre-révolution. Hein, on s'est beaucoup moqué de ces officiers sans soldats. Et en fait, il y a des soldats, c'est beaucoup plus compliqué. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que la plupart donc certains combattent à terre, d'autres rentrent dans la Royal Navy sous le statut d'officier prêté finalement par la France à la Royal Navy britannique. Évidemment, je le précise, mais ça va sans dire, eux ne se voient absolument pas comme ce qu'on en a dit, c'est-à-dire des traîtres à la France, absolument pas. Eux
bien
se
sûr,
voient
non,
comme
mais
fidèles au roi, ça va sans dire.
À Oranda, on a connu, nous, la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, on n'était pas nés, mais on sait ce qui s'est passé. Ah, combien ça devait être difficile de savoir quoi choisir.
Bien sûr.
Enfin, les choix a posteriori, bien sûr, qu'on aimerait avoir fait les bons et qu'eux auraient peut-être aussi aimé avoir fait les bons, mais ça devait... là, c'était pas bien de partir en Angleterre et 150 ans plus tard, ce sera le choix qu'il fallait faire.
C'est vrai. Et voilà. Donc en fait, c'est ça. Donc je ne crois pas qu'il y ait eu d'unité, à part dans les Antilles. D'ailleurs, j'y viens. Je ne crois pas. Il y a eu peu de cas d'unité française, vraiment, de navires français servant sous pavillon royal. Il y a un contre-exemple assez intéressant avec un officier qui est une escadre. En fait, l'escadre, j'y viens, des Antilles en 1781. 12, en fait, refuse, c'est la seule escadre organisée, c'est lié au contexte colonial d'ailleurs, qui refuse de passer sous le pavillon républicain. Elle reste donc, les officiers font renvoyer le pavillon royal, et d'ailleurs, dans une scène très violente hein, d'ailleurs, hein, les républicains parmi l'équipage sont soit débarqués, certains sont exécutés, certains... Donc une scène vraiment violente, mais ces navires-là vont continuer à servir pendant un certain temps sous la bannière royaliste, quand bien même est en sous-ordre avec les Britanniques. Et finalement, ce navire est livré aux Espagnols, les Espagnols qui sont encore en guerre avec la France républicaine. D'ailleurs, l'Espagne ensuite change de camp, mais refusera de rendre ce navire. Bon. Donc bref, oui, il y a eu quand même quelques rares cas de navires français vraiment ayant combattu sous le pavillon royal, mais la majorité de l'écrasante majorité des navires de la marine passent sous pavillon républicain. Pourquoi ? Ben, ne serait-ce que parce que ben, la convention fait tout pour les sécuriser. L'enjeu est majeur. Hein. C'est comme aujourd'hui, ben, c'est exactement pareil. C'est comme si il faut absolument sécuriser les armements les plus importants comme les navires de ligne.
Alors, l'épisode vendéen que vous racontez de façon passionnante dans votre ouvrage « La marine de la Révolution, l'étrange victoire » aux éditions Passé Composé m'a permis de découvrir la suite de la vie de l'Hermione, parce que l'Hermione, dont on a l'impression qu'il a un épisode bref qui est celui de conduire Lafayette aux États-Unis d'Amérique, en fait, il se retrouve contre les Vendéens en 1795.
Absolument. Alors, d'aucuns y verront une lecture allégorique que je ne fais pas mienne, bien sûr, mais c'est un peu triste, effectivement, l'Hermione coule très vite, oui, d'un accident, effectivement. Donc, je vous remercie de l'avoir relevé, parce qu'effectivement, je l'ai fait exprès. Parce qu'il y a de nombreuses frégates qui sont envoyées pour patrouiller les eaux vendéennes et s'opposer à l'insurrection en 1793, mais j'ai mentionné l'Hermione quand même, parce qu'effectivement, je me suis dit, mais je vous remercie du coup, que ça pourrait intéresser certains lecteurs. L'Hermione originelle, effectivement, après avoir eu les missions qu'on lui connaît pendant la guerre d'indépendance américaine, elle est toujours là, hein, elle est toujours là pendant la Révolution, elle a été désarmée dans l'entre-deux-guerres, j'imagine, mais elle est toujours là, et donc elle est mobilisée pour couvrir les abords de la Vendée. Elle est commandée d'ailleurs par un capitaine qui s'appelle Martin, très connu puisqu'il va devenir ensuite...
Passionnant, hein, l'itinéraire de cet homme.
Exactement. Donc en fait, hasard étonnant, le navire est connu, mais son capitaine aussi, puisque lui fait partie justement de ces nouveaux officiers, de ces nouveaux arrivants de la marine de la Révolution, que la Révolution, un peu comme à terre Bonaparte et d'autres, va faire monter en grade. Il va très rapidement devenir... amiral de la flotte de Toulon, je suis quasiment sûr qu'il y a une avenue ou une rue qui doit avoir son nom à Toulon. Bref, pour en revenir à l'Hermione, effectivement, donc elle fait cette mission de patrouille et de contrôle de la Vendée, mais elle fait naufrage. Elle fait naufrage par accident. Devant Pornic, je crois, devant quelque chose comme cela. Et alors c'est amusant dans les archives, parce que de manière assez classique, on se renvoie la responsabilité, le pilote du navire dit mais c'est pas de ma faute, le capitaine dit c'est la faute du pilote, etc. Bref, une fin assez peu glorieuse. Peut-être que l'Hermione était attachée aux couleurs royales et que donc elle voulait pas servir sous les nouvelles couleurs, peut-être.
En tout cas, elle a été reconstruite hein, dans un projet complètement pharaonique. Je me souviens d'avoir reçu M. Balu, dont j'ai oublié le prénom, qui pilotait justement cette grande entreprise de reconstruction. Et c'était on s'amusait, entre guillemets, à rappeler que l'Hermione, en son temps, a été construite, je crois, en 16 mois.
Oui.
Alors, évidemment, il n'y avait pas les lois sociales, les 35 heures, il y a eu plus de 200...
Il n'y avait pas les mêmes techniques aussi, surtout.
Plus de 200 morts, je crois, sur le chantier.
Ça me semble un peu beaucoup.
C'est beaucoup.
Ça me semble beaucoup.
Bon, alors,
mais il y a d'ailleurs... Excusez-moi, je vous ai interrompu. Il existe une source très intéressante sur laquelle il y a des travaux, notamment de David Plouvier. Il y a des registres des décès au port de Rochefort, par exemple. Donc on peut faire des courbes. Et David Plouvier montre, c'est un article que j'ai lu très récemment, c'est pas mon travail, hein, c'est le sien, que, évidemment, dès qu'on arme la flotte, dès que les arsenaux montent en puissance, le nombre de morts au travail augmente.
Augmente, oui.
Ce qui est logique.
Oui, oui, bien sûr. Oui. En tout cas, on avait constaté qu'avec les normes actuelles, que ce soit des normes liées au droit du travail ou bien au droit de la construction, faisait qu'il avait fallu 10 ans pour l'Hermione, sa reconstruction. Alors, Olivier Aranda, dans La Marine de la Révolution, l'étrange victoire aux éditions Passé Composé, puisque nous avons, et vous avez commencé votre ouvrage par cette scène d'essais techniques. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, pendant cette période, cette décennie qu'englobe l'étude de la marine sous la Révolution, quelles sont les avancées techniques? Parce que vous expliquez très bien qu'on avait un peu de retard, notamment avec la couverture de cuivre.
Quelles
sont les avancées pendant cette période?
Alors en fait, il y a deux choses. Déjà, la marine française avait pris un peu de retard sous l'Ancien Régime, non pas que ce soit lié à l'Ancien Régime en tant que tel, mais c'est plutôt lié au fait que la Grande-Bretagne, elle, avait pris de l'avance du fait des débuts de la Révolution industrielle, ce qu'on appelle la Révolution industrielle. Effectivement, dans les années 1780, c'est le moment où on généralise le doublage en cuivre des coques de navires, qui a un double intérêt.
Doublage, c'est extérieur ou intérieur?
C'est extérieur, oui. Et ça permet à la fois d'aller plus vite, parce qu'en fait, on réduit les frottements, c'est une question de mécanique, des fluides, etc., que je ne maîtrise pas du tout d'ailleurs. Et aussi, on évite la présence de parasites. Bref, sauf que le cuivre, évidemment, c'est quand même déjà un métal, donc c'est déjà un matériau industriel, ça suppose un minimum de fabrication, pas d'usine, parce qu'il n'y a pas encore de machine, mais de manufacture. La France en construit une, mais elle a du retard, etc. Et notamment, il y a un problème dans les navires français, c'est que ces plaques de cuivre sont chevillées à la coque, s'il faut les faire tenir, avec des chevilles en fer. Or, les plus pratiques parmi vos auditeurs se rendront tout de suite compte du problème. En fait, théoriquement, en construction, il ne faut surtout pas mettre en contact du cuivre et du fer, parce que ça crée ce qu'on appelle la corrosion galvanique. Bref, le résultat, quelques années plus tard, sous la Révolution, on se rend compte que les fonds de ces navires sont pourris. Les chevilles ont rétréci et laissent passer l'eau de mer, donc c'est quand même une situation catastrophique. Qui d'ailleurs a pour conséquence ce qu'on a appelé la croisière du grand hiver. La croisière du grand hiver, c'est en 1794-1795, la flotte sort pour s'en prendre au commerce ennemi, plusieurs navires font naufrage, et on a dit jusque-là que c'était la preuve que la Révolution comprenait rien à la marine, qu'est-ce que c'est que cette sortie en plein hiver, évidemment ça devait se finir comme ça. En fait, pas du tout, ou en tout cas pas complètement, parce que la plupart des navires vont très bien, ceux qui sont chevillés en cuivre. Mais ceux qui sont chevillés en fer, en fait, on se rend compte que voilà, leur fond était pourri, donc ils s'ouvrent littéralement à la mer, donc ils font naufrage. Alors les équipages sont sauvés, mais enfin c'est quand même plusieurs navires de ligne sont perdus sans combat, c'est quand même un petit peu ridicule. Et c'est comme ça que cette période est vécue. Que fait la Révolution? Alors, je m'empresse de le préciser, malgré toute sa confiance dans la science, malgré sa confiance dans le progrès qui caractérise la Révolution, il n'y a pas d'avancée vraiment majeure. La Révolution échoue à trouver vraiment une vraie avancée. D'ailleurs, certains diront, et c'est pas totalement faux, qu'elle désorganise certaines structures pour mieux les reconstruire, mais pas toujours avec succès. Par exemple, l'Académie de marine est supprimée par la Révolution. Non pas par hostilité à la marine, pas du tout, mais dans une logique de reconstruction. Néanmoins, quand on détruit pour reconstruire, bon, il y a quand même un moment de battement. Donc, la vraie tentative, c'est ce dont vous parliez, la vraie tentative des révolutionnaires, elle est au niveau de la pyrotechnie. Ce sont ces fameuses expériences de Meudon qui visent à créer un obus explosif. Ces expériences n'étaient pas farfelues. Pourquoi? Parce que le vrai inventeur des obus explosifs, c'est sous la Restauration, c'est en 1820, c'est Pexens qui écrit un ouvrage en 1820 qui s'appelle « Nouvelles forces maritimes », etc., où il dit « voilà, on va créer un truc qui s'appelle les obus, ça va être super bon. ». Et il avait raison, c'est lui qui invente l'obus de marine moderne. Et qu'est-ce qu'il dit dans son ouvrage? Qu'il s'appuie sur les expériences révolutionnaires. Il dit « voilà, c'était super, on aurait dû continuer ». Ce qui montre bien que la Révolution, loin de se désintéresser de la marine, tenait quand même dans le creux de sa main quasiment la clé, ce qu'on appelle le sceptre de Neptune, quoi, c'est-à-dire la maîtrise de la mer. Parce que ces expériences ont un défaut, parce qu'évidemment, sinon, la marine française aurait vaincu. Donc, non, ça n'a pas fonctionné. Mais l'idée de départ était saine. Donc en fait, on est passé très près d'une maîtrise de la mer par la technique, c'est-à-dire par, vous voyez, une innovation de rupture, une espèce d'arme miracle qui aurait permis à la France, c'est ce que cherchent les révolutionnaires d'ailleurs, sans succès, mais en étant passé très près.
Olivier Aranda, un grand merci. Vous nous avez emmené dans un univers peut-être plus méconnu, en tout cas dans une période où on ne mettrait pas la marine à l'honneur. Hein, et pourtant, vous le montrez très bien dans votre conclusion, sans avoir un grand satisfecit, en tout cas, il y a une continuité, la marine n'est pas morte, la marine se maintient sur mer, elle se maintient honorablement et c'est vrai qu'on passera les décennies pour eh bien, ensuite faire une mue. Il faut dire aussi qu'on est toujours dans la marine à voile, on est Absolument. Toujours dans une marine d'un autre temps, hein. Mais on peut tout à fait lui retrouver sa place dans l'histoire de ces 400 ans de la marine française. On apprend beaucoup de choses, on voyage évidemment, on navigue, hein, et puis y a un éclairage de certains événements qui nous sont très connus, plus par la terre que par la mer. Un grand merci. C'est vrai que la France reste quand même un pays de mer et vous le montrez très bien dans votre ouvrage.
Absolument. Et en fait, c'est le mot de la fin, le mot de ma conclusion, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'appuyer sur les événements révolutionnaires pour dire que la France est une puissance maritime par éclipse. En fait, non, il y a une vocation maritime nationale continue et qui, j'espère, se poursuivra.
Merci beaucoup, Olivier Aranda. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Marine de la Révolution, l'étrange victoire, aux éditions Passé Composé, en coédition avec le ministère des Armées. Merci d'être venu aujourd'hui pour nos auditeurs. Et chers auditeurs, à mardi prochain. Au revoir.
Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre Les Mardis de la Mémoire dirigé par Anne Collin. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 26 mai 2026 de 10h à 11h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.